Zone critique. Thierry Sartoretti.
Bonjour, bienvenue pour une heure de Zone critique. Aujourd'hui, c'est théâtre, danse pour un public adulte et expérimenté ou un jeune public. Il n'y avait aucune insinuation dans le mot expérimenté. En coulisses, d'abord pas en coulisses, au micro, vous avez pris la parole. Je salue Alexandre Demidoff, notre chroniqueur qui travaille pour le journal Le Temps, où on découvre vos critiques, vos portraits et vos billets. À votre
bonjour,
gauche,
Thierry.
Oui, bonjour. Bonjour, Mireille Descombes, dont on lit les avis dans le blog de l'hebdo Polar, Police et compagnie, ainsi que dans le Matin Dimanche. Bonjour.
Bonjour Thierry.
Et en bout de table, car vous ne le savez peut-être pas, mais la table est un peu ovale, comme un calisson d'Aix, il y a Marie-Pierre Genecamp, bonjour.
Bonjour.
On vous entend dans les matinales d'Espace 2 et également dans le journal Le Temps. Et en coulisses, à ma vue, il y a Fatmir Blakaï, que je salue, réalisation technique, et enfin Monique Cortési, assistance de production. Le programme de cette émission Zone critique d'aujourd'hui, un accueil venu de France et trois créations d'ici qui vont tourner dans toute la Suisse romande et même au-delà pour l'une d'entre elles. Les voici dans l'ordre de passage. Créature, c'est un monstre bicéphale, l'invention de deux danseurs, Joseph Trefeli et Gabor Varga. La créature, gambade allègrement à la salle de l'ADC à Genève jusqu'au 8 novembre. Elle fera un saut à Neuchâtel du 28 au 29 novembre et une halte à Lausanne Arsenic du 10 au 12 mai l'an prochain. J'ai vu un index qui se levait, Marie-Pierre Genecamp.
Je crois qu'il faut dire creature.
Creature.
Parce qu'en fait...
C'est en hongrois qu'on lit comme ça?
Non, c'est écrit en anglais.
Oui, justement.
Le spectacle a été présenté par Cécile Simonet qui a fait un très beau creature.
Donc, eh bien, je prends le pouvoir et ici,
c'est Cécile Simonet qui est attachée de presse de l'ADC.
Voilà, exactement.
Nous dirons créature sur cette antenne. Voilà. Le deuxième spectacle s'adresse aux plus jeunes. Il s'appelle « Je m'appelle Jack ». Ou I'm Jack, texte de Sandra Corolle et mise en scène de Michel Thomand. Mais qui donc est Jack? Répond sur la scène du Petit Théâtre de Lausanne jusqu'au 15 novembre. Jack vous retrouvera aussi le 18 novembre au TPA de la Chaux-de-Fonds, le 6 décembre à Les Chandelles d'Yverdon-les-Bains. Et l'an prochain, Jack sera à Morges-Beausobre le 6 mars et enfin au CO2 de Bulle le 12 mars. Le troisième spectacle explore la relation pas toujours simple entre une fille et sa maman. C'est destiné à un public adulte et cette pièce nous vient de la belle province Québec. Texte de Lise Vaillancourt, mise en scène du Suisse roman François Marin. La Corneille, c'est son nom, se joue sur la petite scène du Pouloff de Lausanne jusqu'au 15 novembre. Elle s'envole ensuite pour une belle tournée du côté de Villars-sur-Glâne, à Nuitonie du 18 au 20 novembre, puis le 24 novembre à Sion, Théâtre de Valère, un théâtre que dirige d'ailleurs ce même François Marin. Le 26 novembre, la Corneille se pose à Vevey, et l'an prochain, du 15 au 17 avril, elle sera au Crochetant de Montant, et enfin, ultime étape, le 21 avril, elle croise une dernière fois à Yverdon, théâtre Bénaud-Besson. Enfin, dernier spectacle au menu, le Méridien. Ce Méridien passe pile poil à travers le théâtre de Vidy-Lausanne jusqu'au 7 novembre. Seul sur le plateau, le comédien français Nicolas Bouchot, dans une mise en scène d'Éric Didry, interprète un discours du poète romain Paul Celan. Vous pourrez retrouver les lieux, les dates et tous les renseignements, ils sont nombreux, précis concernant ces quatre spectacles sur notre site internet www.rts.ch/zone critique. Merci beaucoup. Mais dites le plus fort, Mireille.
Zone critique.
Voilà un site où vous pourrez également trouver cette émission en podcast. Parlons donc de cette fameuse créature. Elle est genevoise, mais pas que. Comme la créature du docteur Frankenstein, née elle aussi au bout du lac. Celle dont il est question ici possède deux têtes et quatre jambes. Elle manie le bâton, le fouet, chante à tue-tête en vieux madiar de la Grande Plaine. Créature, c'est le nouveau spectacle du duo de danseurs Joseph Trefeli et Gabor Varga. Ces deux-là ont jadis œuvré dans une fameuse compagnie de danse contemporaine, la compagnie Alias, du chorégraphe Guillaume Botello. D'origine hongroise, tous les deux, ils ont aussi autrefois étudié et pratiqué les danses traditionnelles à Budapest. Traditionnel, contemporain, Hongrie, voilà qui devrait peut-être rappeler aux mélomanes d'Espace 2 le répertoire de Béla Bartók ou de Zoltán Kodály, et cette volonté de créer une musique nouvelle, inédite, personnelle, mais également ancrée dans son terroir. Le duo Varga Trefeli avait déjà créé sur ce principe Jinx 103 ou Jinx 103 ou Jinx Harum. Non, Saz Harum, pardon, j'arrive à le dire. Jinx Saz Harum, c'est en hongrois. Un spectacle qui a fait le tour du monde du centre d'art contemporain occidental à la place de village africain. Ils reviennent donc avec une proposition plus sophistiquée. Il y a des costumes et des masques sur scène qui rappellent les créateurs du carnaval de Kalocsa ou de Kaposvár en Hongrie, voire des chamans. Je vous rappelle à cette antenne qu'avant de se proclamer ces dernières semaines rempart du christianisme, la Hongroise était une fière tribu de barbares païens venus des prairies d'Asie centrale. Ne l'oublions pas. Créature est un spectacle puissant, coloré, très masculin aussi, avec force coup de pied et jeu de combat. Et voilà, on entend battre des pieds, battre des mains. C'est un peu de l'ambiance sonore de Créature, spectacle de danse proposé à l'ADC de Genève. Lors de la première mardi dernier, il était précédé de son contraire absolu, les arabesques corporelles d'un duo de danseurs tout en finesse et sensualité. Il s'agissait de motifs du français Pierre Ponviane et de la genevoise Marthe Kromenacker. Mireille Descombes, vous n'avez pas vu, pas encore vu, dirais-je.
Pas encore.
Voilà, la Créature à l'ADC, je vous invite, je vous convie à le faire. Et du coup, je me tourne vers Marie-Pierre Jeunecamp, qui, je crois, a plutôt apprécié ce spectacle, ou pas, comme on dit dans une autre pièce.
Non, je l'ai apprécié pour sa force, comme vous l'avez dit, assez virile, assez combative, assez menaçante, inquiétante. Et cette pièce m'a rappelé une autre pièce assez récente, et aussi d'une hongroise, Esther Salmon,
oui,
qui,
tout
vous
à fait.
Le savez sans doute, s'est beaucoup intéressée, non pas seulement au folklore hongrois, elle l'a fait dans une pièce précédente, mais la pièce à laquelle je pense, c'est Monument Zero,
qui
Haunted
avait été
by Wars,
présenté au Festival Le Phare cet été et joué, sauf erreur, à Vidi-Lausanne.
Oui, et puis surtout joué à l'Arsenic.
Merci
et présenté au Festival d'Avignon où il avait créé un petit séisme quand même parce que
très exagéré le séisme.
Alors d'accord, mais pas mal de réactions quand même. Enfin, moi j'en avais lu dans la presse à l'époque, j'y étais pas. Bon, voilà, c'est pas grave.
Mais
ce que je voulais dire, voilà.
Ce que je voulais dire,
c'est que voilà, pourquoi il me rappelle ce spectacle et pourquoi les deux spectacles sont voisins, voire même presque jumeaux, c'est qu'ils font tous les deux référence à des danses guerrières, à cet aspect inquiétant, justement, et mobilisateur de la danse de combat. Et que, comme vous l'avez dit, donc c'est pas la première fois que le duo Trefeli et Varga se mettent au folklore. Il l'avait déjà fait dans Jinx, cette danse de la frontière. Et là, il le faisait de façon plus ludique, plus joyeuse, plus festive. Ici, avec Creature, il rentre vraiment dans une logique de guerre. Et c'est exactement pour ça que je pense à Esther Salmon, parce que le spectacle qu'elle a présenté au Phare Festival des Arts Vivants racontait justement toutes les danses de combat. C'était vraiment, dans sa perspective, une sorte de catalogue des danses de combat de tout. Alors là, par contre, de toutes les origines géographiques et même à travers l'histoire. Et ce qui est très frappant ici, c'est justement que ces danses hongroises le sont, alors bel et bien, on a entendu les rythmes, les temps inégaux, fidèles à Bartok. Mais par contre, les atours, les vêtements que portent sont beaucoup plus colorés. M'ont fait penser à plutôt des sorciers africains avec cette coiffe tout en hauteur. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose chez les Hongrois, puisque Esther Salmon est aussi hongroise. Et elle le dit d'ailleurs dans son précédent spectacle qui traite du folklore. Les Hongrois, visiblement, ont une pratique de leur folklore très régulière. Ils se rendent régulièrement dans des salles communales ou des salles, des salles de gymnastique, pratiquer leur folklore. Les enfants, par exemple, le pratiquent aussi beaucoup en classe et encore aujourd'hui, ils le pratiquent tout le temps.
Ça s'appelle en Hongrie les Tanzhas. Ce sont des lieux où l'on pratique les danses
bien
populaires.
Mieux que moi. Donc on le sent, il est très vivace. Et il est tellement vivace, il est tellement à l'intérieur d'eux qu'ils peuvent se permettre justement de le trafiquer et de nous le restituer avec une force beaucoup plus, je dirais, universelle et plus justement inquiétante, qui fait référence à tout l'arsenal des danses guerrières. Et là, on le retrouve très fort chez, parce que le précédent spectacle, Jinx 103, était plus justement, comme je l'ai dit, ludique. On était très proches, on était assis en cercle, par terre, très proches, et il y avait un côté beaucoup plus justement veillé entre copains, comme ça, un côté beaucoup plus, presque adolescent. Et là, je trouve qu'ils ont mûri, ils amènent vraiment le poids de l'histoire, enfin le poids et l'inquiétude de l'histoire. Et notamment avec le passage du fouet, hein, qui a beaucoup impressionné Alexandre, j'étais pas le même soir.
J'étais très impressionné.
Non, j'étais, mais moi j'avais des étudiantes en face de moi.
Je me sentais un peu fauve tout d'un coup.
Il y avait ça, hein, parce que donc c'est la scène est carrée, et puis à un moment donné, ils jouent avec un fouet. D'abord, ils le font tourner comme un lasso,
oui.
Et tout à coup, ils le claquent, et oui. Vraiment, ça, voilà, ça, là, ça réveille justement toutes les terreurs d'enfants.
Ah, on se sent très animal, hein, tout d'un coup.
Oui, en tout cas très menacé. Je n'ai pas rugi, mais franchement, j'ai vu des adolescentes en face de moi qui se sont prises l'une contre l'autre parce qu'elles avaient un côté comme ça vraiment attaqué. Donc
c'est
je trouve très beau d'avoir cette vivacité.
Voilà, en Suisse, les claquements de fois, on les entend plus que dans les carnavals désormais, mais c'est assez peu courant dans la rue.
C'est ça.
Bon,
et à Genève, en tout cas, moi j'en ai peu entendu.
En Hongrie aussi, hein, c'est plutôt les portes du métro de Budapest qui claquent plutôt que les coups de fouet dans la capitale.
Exactement. Mais donc voilà, beaucoup beaucoup aimé cette espèce de force inquiétante.
D'énergie. Et vous, Alexandre, vous étiez aussi forcément au premier rang, puisqu'il faut que j'explique le dispositif. Les danseurs jouent dans une sorte de place carrée et le public est groupé autour des quatre angles du carré. Enfin, quatre côtés, pardon.
On dit quadrifrontal.
Oui, voilà, quadrifrontal, ouais. Très bien. C'est presque un panoptique aussi. Chacun peut observer l'autre, vérifier si son voisin d'en face ou pas est bien éveillé, effrayé ou dort. Alexandre.
Formidable soirée. Vraiment une formidable soirée à l'ADC. D'abord parce que c'est une soirée très contrastée. Vous avez d'un côté la pièce de Pierre Ponviane et de Marc Ménachère.
Motif.
Qui est une pièce qui relève de l'enluminure. Hein. C'est un pas de deux qui dure 45 minutes, qui se joue dans un clair obscur, parfois dans l'ombre, parfois sous les feux blancs d'une lune passagère. Et qui se joue surtout sur une toile de fond sonore, un murmure, une confidence dans la nuit, un tressage de voix, de serments ininterrompus, et ça dure comme ça pendant 40 minutes, et il joue sur ce tapis verbal, ce clapotis qui paraît tomber d'une voûte de contrebandier ou
vous en avez vu les choses.
Non, mais ce qui est extraordinaire dans ce pas de deux que je recommande, qui se joue encore ce vendredi soir, qui se joue jusqu'à dimanche, c'est cet alliage entre la lettre et l'enluminure. C'est-à-dire qu'au fond, la danse ici fonctionne comme l'enluminure de la lettre. C'est-à-dire comme une extraction, si l'on peut dire, comme la quintessence de ce chuchotement amoureux ininterrompu. Quelque chose qui serait la fluidité de l'impossible parole. Et c'est assez merveilleux, parce que ça dure 40 minutes. Ils sont très beaux, l'un et l'autre. Ils ont une élégance. Ils sont dans, comme vous le disiez très justement, dans l'entrelacs permanent. Ils sont dans le nœud qui se dénoue. Il y a quelque chose qui coule de la fois sensuel et de très formel. Ce qui est beau aussi, c'est qu'au fond, c'est une danse qui ne se réduit pas au sentiment, mais qui est portée par le sentiment. Allez voir Motif de Marthe Kruménacher et de Pierre Ponviane.
Alexandre Demidov, je vous sens rêveur, mais voilà que les lumières s'éteignent, c'est la pause, et soudain apparaissent les deux barbares.
Thierry, vous passez de l'enluminure au brasero. Et vous êtes dans la hutte. Et j'ai beaucoup aimé ce contraste, hein. Passer effectivement d'une nuit au clair de lune à une place de village un peu hostile, un peu inquiétante, animée par deux formidables danseurs, Joseph Trépelli et Gabor Varga, qui, comme le disait très justement Marie-Pierre, sont traversés par une histoire qu'ils vont rechercher dans leur mémoire, dans la mémoire de leur corps, et qu'ils s'approprient. Alors, ils se l'approprient sur un mode à la fois festif, à la fois carnavalesque, à la fois barbare, inquiétant et étrange. J'aime beaucoup ce côté carnavalesque, justement, avec ces coiffes itifaliques ou forestières, on ne sait plus très bien.
Que signifie donc itifalique? D'accord, je comprends très bien. Iti et phallus.
Voilà, c'est le pain.
Je le note dans mon
et c'est le printemps
personnel.
Du pain, voilà.
J'ai pensé à E.T., moi.
Voilà. La classe, oui, mais il a pensé au phallus.
Voilà. Non, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et surtout, dans les deux pièces, les chorégraphes ont une vraie élégance, c'est de maîtriser le temps. Ce sont des pièces, la première pièce, je ne sais pas, elle dure 45 minutes. Pour tout dire, elle pourrait durer toute la nuit. Mais elle ne dure que 45 minutes, et c'est très bien ainsi. Et la deuxième pièce, une demi-heure. Donc là aussi, parce que souvent, les chorégraphes ont tendance à rallonger, à vouloir se formater. Hein. C'est un spectacle, une pièce, ça dure une heure.
Il faut qu'il dure une heure.
Voilà,
oui.
Il faut qu'il dure une heure. Et là, non. Eh bien, ce sont des formes brèves, mais d'autant plus percutantes.
Il y a sans doute une raison pour Créature. Vous avez cité le carnaval Alexandre Demidov. C'est que cette pièce est souvent destinée à des lieux extérieurs, dans les endroits où les gens ne sont pas du tout confrontés à la danse contemporaine habituellement. J'ai vu sur Internet, par exemple, sur YouTube, une vidéo où on voit Créature jouer sur une place de souk à Beyrouth. Mmh. Ils sont allés, visiblement, il y a quelques semaines, pour aller se répéter un peu tout ça discrètement. Et c'est assez drôle de voir les enfants libanais, comme ça, confrontés à ces hurluberlus, peintures lurées, avec ces quoi, frappez-moi le mot, itifaliques. Je ne sais pas ce que les Libanais auront vu en voyant ça. Bon, Créature de Joseph Trefeli, Gábor Varga, je vous rappelle, c'est à découvrir à la salle de l'ADC à Genève jusqu'au 8 novembre, avec en alternance d'autres spectacles qui jouent juste avant, Motif, on vient de le dire, et puis un peu plus tard, un spectacle de Thomas Hauert, il y a aussi Hop, qui est également dans l'arrière. Il y a un programme très riche, en fait, à l'ADC durant ces 15 prochains jours. La Créature passera aussi, alors seule, à Neuchâtel du 28 au 29 novembre, dans le cadre d'Évidence, ainsi qu'à Lausanne Arsenic, ça c'est du 10 au 12 mai l'an prochain. Vous êtes sur Espace de Zone Critique et voici la deuxième pièce de notre débat critique de la danse. Passons maintenant au théâtre, du théâtre pour les enfants en l'occurrence, mais aussi pour les parents sans doute. On rejoint Je m'appelle Jacques sur la scène du Petit Théâtre de Lausanne.
T'es prête, poulette? Oh, je comprends pas, Ellie. On dirait que tu t'en fiches. Perdre sa dernière dent de lait, c'est le jour le plus important de toute une vie et toi tu t'en fiches? Quoi alors? Quand tu perds ta dernière dent de lait, tu dois te présenter devant le grand miroir de la vérité.
Oui.
Et tout le monde est là?
Oui.
C'est qui tout le monde?
C'est toi, tes parents, moi et tout le monde aussi.
Tout le monde aussi. Pourquoi tout le monde aussi?
Parce que c'est comme ça qu'on fait pour la cérémonie.
Pour la cérémonie, tout le monde est là et je suis devant le grand miroir et je regarde à l'intérieur du grand miroir et je me retrouve nez à nez avec la vérité. Avec le V majuscule de la vérité.
Vérité.
Je m'appelle Jack, avec les voix des comédiennes Élodie Weber et Sandra Corol. Cette dernière a également écrit le texte de cette pièce mise en scène par Michel Thomand. Sur le plateau, on découvre deux copines, qu'on vient d'entendre, Ellie, alias Élodie Weber, et Shakira, alias Sandra Corol, qui m'a furieusement fait penser à Chantal Goya, en mieux, avec sa robe rose de chez Rose et son petit poney en peluche. Ellie a donc perdu sa dent de lait, on l'a compris, et le miroir va lui dire si elle est rose ou bleue, comprenez, fille ou garçon. Ses parents l'accompagnent à la cérémonie. Papounet est joué par un Salvatore Orlando à la mine de Tintin électrocuté, et Mamounette par la longiligne Olivia Tchiki-Ternka. Et puis, il y a un cinquième comédien, Noé Mercier. Quel est son rôle? Eh bien, Ellie, lui aussi. Ou plutôt, Jack qui est Ellie, ou alors Ellie qui est devenue Jack, ou alors Ellie qui est Ellie dehors et Jack dedans, ou Ellie dedans et Jack dehors. On ne sait pas trop bien. C'est que le miroir a révélé une vérité bien plus compliquée que prévu. Rose compliquée en l'occurrence, avec du bleu aussi. On le comprend, Je m'appelle Jack traite de la construction d'identité et du genre. Il aborde aussi la question de la tolérance et surtout de la difficulté à se penser et à s'avouer différemment. Aborder ce sujet est audacieux. Ce texte est finement mené, à mon point de vue, par plusieurs niveaux de lecture. La pièce s'adresse aux enfants dès 7 ans. Elle concerne évidemment également leurs parents. Pour figurer les voix assez impressionnantes qui parlent à Ellie depuis le miroir, Je m'appelle Jacques recourt généreusement à la vidéo et à des effets sonores, une vidéo très abstraite et graphique signée Nicolas Vinch, avec une mise en scène peut-être très techno-geek, on va dire, avec beaucoup de néons, et puis un robot voiture transformable ami imaginaire qui parle régulièrement à la petite Ellie. Je me tourne vers vous, Mireille Descombes, enfin vous, je me tourne, vous êtes en face de moi en l'occurrence, pour entendre votre avis sur ce « Je m'appelle Jack » que vous avez découvert lors de sa première.
Oui, alors pour moi c'est un spectacle, c'est un spectacle qui fâche, c'est un spectacle qui m'a beaucoup fâchée.
Qui vous a fâchée?
Oui, pour moi c'est en fait du très mauvais théâtre pour enfants, parce que je trouve que d'une part il manque de finesse aussi bien dans la langue que dans le jeu, il est très compliqué au niveau du langage, et il croit que pour dénoncer certains clichés, en l'occurrence, je suis une fille, je suis rose, je suis un garçon, je suis bleu, je suis une fille, je dois aimer les poupées et pas les voitures, etc., qui sont des clichés quand même un petit peu éculés, on utilise d'autres clichés. Et je trouve que finalement, la fin, enfin, puisque vous l'avez mentionné, hein, en fait, il y a ce garçon qui vient jouer le rôle de la fille, qui expulse la fille, si l'on peut dire. Et je trouve que de signifier de cette façon-là que si on n'est pas entièrement rose, on n'est plus une fille, je trouve que c'est déjà idéologiquement assez douteux, parce qu'on sait très bien, quand même depuis assez longtemps, qu'on est tous et féminin et masculin. Et je trouve que cette... et après de dire, voilà, ben les parents aussi sont aussi très clichés, ce sont des parents qui ne vont pas comprendre...
Voilà, mais vous savez que les parents ne comprennent jamais rien, Mireille, voyons, vous le savez.
Mais ils sont très caricaturaux, voilà, je trouve que finalement c'est un spectacle qui tombe à côté de la plaque et qui, en plus, est très compliqué, il a un langage pseudo-poétique extrêmement... pour moi, je trouve absolument insupportable, parce que c'est pas... On en reparlera de la poésie peut-être à la fin, justement, de l'émission, et ça, c'est de la vraie poésie. Enfin, j'en en dis pas plus. Mais donc, c'est un spectacle qui m'a fâché.
Vous n'avez pas été convaincu, voilà. Visiblement.
Et derrière moi, il y a un enfant qui a dit « Je n'y comprends rien, je m'ennuie. » Eh bien, j'avoue que moi, j'ai un peu compris, mais je me suis pas ennuyée, mais je le comprends.
Marie-Pierre, de votre côté, vous avez signé dans Le Temps une chronique, c'est aujourd'hui, je crois, hein, dans Le Temps, ce vendredi, identité troublée, propos opaques. Vous n'avez pas, vous non plus, été séduite par le langage de « Je m'appelle Jacques ».
Il y a un grand écart tout à fait étonnant. D'un côté, un jeu vraiment, effectivement, quasi bétifiant, en tout cas extrêmement, alors bien sûr totalement assumé, mais extrêmement marqué, extrêmement caricatural. On l'a entendu là avec les voix des jeunes, enfin des petites filles. Et de l'autre, un texte extrêmement métaphorique où, pourtant, Sandra Corolle est courageuse puisqu'elle empoigne une thématique qui est très très peu, qui je crois, à mon sens, jamais abordée dans le théâtre jeune public, donc cette thématique du trouble de l'identité sexuelle. Mais elle l'empoigne avec des termes complètement métaphoriques, l'animal du dedans, le regard qui ricoche sur le lac, les grandes voix, les petites, enfin la vérité rose simple, rose compliquée, le bleu de lac de montagne, etc., etc. Pourquoi ?
Est-ce que ce langage n'est pas destiné à deux publics à la fois, hein, les enfants et leurs parents ?
Mais moi, je pense que les enfants sont bien plus simples. Les enfants, s'ils ressentent, si on veut leur faire, disons, contacter ce trouble, puisque c'est bien ça l'idée. C'est quand même passer le message que c'est autorisé, qu'on peut être et fille et garçon. Et c'est vrai que la remarque de Mireille ne m'avait pas traversé l'esprit, mais c'est vrai que là, il y a une exclusion. On est soit fille, soit garçon. Donc, de ce point de vue-là,
à mon époque, on parlait de garçon manqué, mais je trouve que ce n'est pas beaucoup mieux.
Ouais. Non, là, finalement, c'est vrai que le fait que Jack remplace purement et simplement la petite Ellie, c'est vrai que ça pose une question sur la mixité, en fait, des genres dont on est tous effectivement dépositaires. Donc, là, bon, mais au-delà de ça, si même on dit, voilà, Ellie a droit d'être Jack, hein, puisqu'il y a des gens qui vont jusqu'à l'opération, qui se changent bel et bien de sexe. C'est ce à quoi j'ai pensé, moi, du coup, quand même, parce que c'est assez radical comme changement.
Non, je ne sais pas si le thème aurait pu être abordé dans une pièce pour enfants.
Alors voilà,
la question
du coup,
transsexualisme.
Moi, j'ai compris ça comme ça. Je me suis dit, finalement, quand elle aura l'âge, elle fera carrément l'opération, puisqu'elle est complètement garçon. Bref. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut qu'elle utilise des mots beaucoup plus simples. Enfin, il ne faut jamais dire à un auteur ce qu'il doit faire. Mais en tout cas, moi, ça m'a choqué. On va parler de ce qui est. Je pense que ce langage n'est pas du tout accessible. Et si les enfants commencent à bouger, à réclamer une orangina, à réclamer de sortir, c'est simplement qu'ils n'y comprennent rien. Ils ne comprennent pas la situation. Parce que ce n'est pas dit simplement. Elle ne dit pas, voilà, je me sens garçon.
C'est compliqué de dire ça simplement. Ben c'est non. Très compliqué. Ben,
je me sens garçon, elle devrait pouvoir le dire sur une scène de théâtre, puisque les enfants ne peuvent pas le dire dans l'actualité, dans la réalité. Donc au moins qu'on le dise, qu'ils l'entendent, plutôt qu'être un animal du dedans qui ne plaît pas aux parents.
Bon, elle ne se sent pas complètement garçon. Hein, c'est Rose compliqué, justement.
Non. Alexandre, je sens que votre avis est un peu
divergent. Elle devient
un
garçon à la fin, donc elle se sent bien complètement garçon. Puis elle aime les jeux, elle aime grimper aux arbres. Non, elle a bien ce problème-là.
C'est une issue possible.
Mon Dieu, mais on peut aimer grimper aux arbres et n'être pas un garçon.
Non, mais en tout cas, c'est ce qu'elle raconte. Non, mais ce qu'elle raconte la pièce, puisqu'elle devient garçon à la fin, c'est qu'elle se sent complètement garçon.
Et c'est une chute possible. Moi,
pas tous en même temps, pas tous en même temps. Je sens qu'Alexandre vous piaffez d'impatience, car vous avez un avis peut-être divergent. Nous vous écoutons.
Je trouvais ça très très bien. J'ai passé un excellent moment. Alors, c'est vrai que le rose prête à toutes les variations. Il y a le rose panthère, d'accord. Il y a le rose dragé. Il y a le rose dragé, il y a le rose gay, et il y a le rose science-fiction. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que Sandra Corolle invente le rose science-fiction. Manière de dire, au fond, que la construction d'une identité relève toujours d'un roman de science-fiction. Et que, contrairement à ce que vous avez l'air de dire, c'est vrai que la chute est assez brutale, mais à mon sens...
Et maladroite, en plus.
Tout reste ouvert, malgré tout, jusqu'au bout. Alors, il faut bien conclure d'une manière ou d'une autre.
Moi, je ne comprends pas le rose science-fiction, Alexandre.
Le rose science-fiction, parce que, d'abord, il y a une esthétique science-fiction.
Clairement, le robot transformé.
C'est la guerre
etc.
des étoiles.
C'est une esthétique de supermarché.
C'est une esthétique de guerre. Là, c'est la guerre des étoiles. Je pense que Sandra Corolle.
Vous pensez aux voix aussi.
Non, mais vous n'avez pas vu la guerre des étoiles.
Aux voix, laissez parler.
Aux sabres qu'on peut imaginer phosphorescents, aux créatures. Non, il y a quelque chose chez Sandra Corolle qui relève de l'imaginaire de la science-fiction et elle mixe ça de manière très habile hein, ce questionnement identitaire et cet imaginaire de la science-fiction pourquoi pas, et elle suggère ce que je viens de dire, c'est-à-dire que la construction d'une identité c'est toujours un peu de la science-fiction, c'est toujours fait de briques et de brocs, c'est toujours une affabulation et c'est jamais complètement conclu et c'est ça aussi que raconte joliment cette pièce. Alors les questions que vous posez, évidemment qu'elles sont pertinentes hein. Est-ce que c'est fait pour les enfants de 6-7 ans? J'en suis pas sûr. Mais en revanche, ce dont je suis sûr, c'est que c'est fait pour l'enfance. Et l'enfance n'est pas une question d'âge. C'est une question simplement de disponibilité. L'enfance, on la porte à 6 ans, comme on peut la porter à 80 ans.
Ou de maturité personnelle.
Ou de maturité. C'est un rapport au flou. C'est un rapport au possible. C'est un rapport au roman intime, au roman personnel. Et c'est d'une certaine façon ça que raconte aussi la pièce. C'est-à-dire ce champ des possibles qui, pour moi, s'identifie à l'enfance. Et le langage. Ben moi, franchement, j'entends bien hein, Mireille, j'entends bien Marie-Pierre. C'est vrai qu'il y a un lyrisme chez Sandra Corolle. Mais moi, j'y suis sensible sur ce coup-là, très, très sensible, parce que je ne pense pas que les choses peuvent se dire de manière aussi élémentaire et aussi brute que ce que vous avez l'air de dire. Parce que, de toute façon, dans la pièce, les choses se résolvent, mais elles se résolvent parce que c'est une pièce et parce qu'il faut conclure d'une manière ou d'une autre.
C'est leur choix dramaturgique.
C'est le choix dramaturgique.
Très explicite.
Excusez-moi, est-ce ce qui vous divise tous trois, c'est une question théâtrale ou c'est votre propre approche des questions de genre et de comment on doit les représenter? Je pose la question.
Bon, ce qui est sûr, c'est que...
Moi, c'est une question théâtrale. Moi, je pense que c'est très louable, c'est très vraiment intéressant. J'étais très, très curieuse de voir comment elle allait aborder cette question. Je trouve que c'est trop compliqué. Je trouve qu'elle remplit pas sa mission dans la simple simple mesure que les enfants ne comprennent pas ce dont il s'agit. Je suis sûre. Dans la salle, il y avait plein d'enfants qui s'impatientaient.
Mais 6-7 ans, je pense, on a peine à comprendre.
Et c'était trop jeune.
C'est presque plus un spectacle pour les 10-14 ans.
Il y a comme un écran, il y a comme une pudeur trop grande ou une envie de rendre joli quelque chose qui est douloureux. Mais joli, joli, quoi. Vraiment, niais.
Non, joli fantasme.
Mireille, vous opinez du chef.
Non. Joli toqué.
Attendez, Alexandre.
Parce qu'il y a aussi quelque chose d'assez particulier, c'est qu'on dit que ce grand miroir, hein, ou ce miroir, les termes, je n'ai pas relu la pièce, dit la vérité. Mais il y a aussi ces voix qui sont dans le miroir, qui ne sont pas les voix de la vérité, mais qui sont les voix d'une sorte de normalité.
De surmoi.
D'académie de
moi. Et c'est très, très compliqué, parce que, finalement, la voix du grand miroir, on l'a jamais. Elle apparaît juste par un petit filet bleu qui est un néon bleu, qui lui dit, mais tu es bleu. Mais ses voix lui disent, tu es rose, et c'est pas grave, tu vas t'habituer. Donc en fait, il y a un mélange, justement, entre ce que vous appelez le surmoi, la vérité entière, ou je sais pas, toute nue, mais enfin voilà.
Simple et compliqué, simple, voilà. Etc.
Donc c'est très, moi je trouve que c'est au niveau théâtral. Moi, le thème ne me pose aucun problème à être traité, mais pas comme ça.
Je sens que vous ne serez pas d'accord entre vous.
Disons quand même que les acteurs sont bons quand même.
Oui, alors, oui, oui.
Vous reconnaîtrez quand même qu'Élodie Weber est excellente.
Elle a été bien meilleure dans d'autres rôles.
Ah, bien sûr. Enfin,
elle est tellement caricaturale.
Non,
j'ai presque dire la pauvre.
Allons.
Voilà. Les parents sont remarquables.
J'invite nos auditrices, nos auditeurs et nos auditeurs qui n'auraient pas de genre défini à se rendre compte par eux-mêmes de cette pièce et à y aller.
Donc nous tous.
Emmenez même votre surmoi.
Science-fiction.
Vous ne payez pas de supplément au Petit Théâtre. Je m'appelle Jack, texte de Sandra Corolle et mise en scène de Michel Thomas. C'est donc à Lausanne jusqu'au 15 novembre. Conseillé dès 7 ans ou plus, visiblement autour de cette table, on semble penser que c'est un peu plus âgé. Jack passe aussi le 18 novembre au TPR d'Achaux-de-Fonds, le 6 décembre à l'Échandolle d'Yverdon-les-Bains et l'an prochain il sera à Morges-Beau-Sobre le 6 mars et enfin au CO2 de Bulle le 12 mars. Restez avec nous en zone critique, vous êtes toujours sur Espace 2, je vous en prie, vous y êtes bien. Et pas question de bâiller aux corneilles, car de ce noir volatile, voici le cri.
Ça a commencé comme ça. En revenant de mon cours de yoga, une corneille volait dans mon loft. Moi qui suis superstitieuse, j'ai tout de suite pensé à un message de mort. Les lumières étaient-elles en train de s'éteindre définitivement sur l'Amérique? Et y avait-il une de mes amies qui venait d'apprendre qu'elle avait un cancer? Ou c'était de ma propre mort qu'il s'agissait? J'ai toujours été poursuivie par l'angoisse de la mort. Une mort qui arriverait d'un seul coup sans crier gare. Je mourrais au milieu d'une phrase, comme un insecte qui s'écrase sur la lunette d'une voiture.
Un extrait de La Corneille, une pièce québécoise de Lise Vaillancourt, créée au Poulouf de Lausanne par le metteur en scène François Marin. On entendait la voix de la comédienne Christine Vouillot dans le rôle d'une fille adulte et passablement névrosée que hante le fantôme de sa maman. La dite maman apparaît et disparaît dans le loft de Julie pour l'administrer une logorée où les souvenirs familiaux plus ou moins grivois, l'ego maternel et les reproches sont pour le moins castrateurs. Pour incarner cette maman écrasante et toute de noir corbeau vêtue, Anne-Marie Yerli, le menton bien tendu d'une attitude de commandante en chef. Il y a aussi une voisine lesbienne qui apparaît et disparaît, tel un personnage de sitcom. C'est Colline Ladetto qui vient réclamer à Julie de l'anis étoilé et du tofu ou je ne sais quelle bricole biodynamique. La taille minuscule du pull-off, un théâtre bas de plafond et étroit de plateau, n'autorise pas de folie côté scénographie. La corneille est dès lors plutôt sobre, noire de rigueur. Des lampes plafonniers éclairent les personnages. Le loft de Julie est pour ainsi dire vide, on y trouve tout juste un frigo, deux chaises. Une petite chaise pour la fille, une énorme chaise pour la mère. La symbolique est claire. Une cabine téléphonique et de la musique transforment ce loft en rue ou en bar dédié à Chet Baker. L'ambiance de cette pièce est à mi-chemin entre le passe-muraille de Marcel Aimé pour le côté fantastique et la prose de Nancy Houston pour le côté sirop d'érable. C'est un travail, j'ai pris des
heures. Enfin,
eh bien, parlez précisément, Alexandre Demidoff, parlez-nous de cette corneille, s'il vous plaît.
J'ai eu un double ou un triple plaisir. D'abord, découvrir un auteur et un texte. C'est Lise Vaillancourt. Lise Vaillancourt, c'est merveilleux, ça s'appelle Lise Vaillancourt.
Alors, au Québec,
c'est de la science-fiction, ça.
C'est pas banal.
C'est une fiction. C'est en tout cas, c'est une promesse de fiction, Vaillancourt. Il faut dire aussi que François Marin a ce mérite depuis longtemps de creuser un sillon du côté des auteurs contemporains, en particulier des auteurs québécois. Vous vous rappelez peut-être, il y a quelques années, il montait une pièce de Carole Fréchette.
Les ours dorment enfin. C'était celui-là aussi, de Geneviève Billette.
Alors voilà, aussi.
Et Fréchette, c'est
et
juste.
Et Carole Fréchette. Et puis il y a cet auteur, alors pour le coup, que j'avais pas beaucoup apprécié il y a quelques mois, au même pull-off, je crois, David Paquette, pour un autre texte qu'il nous révélait. Alors d'abord, il y a le plaisir de la découverte du texte, et puis il y a le plaisir de Christine Bouillot, qui est un peu notre Kate Blanchett. Hein. Elle a quelque chose de cet ordre-là. C'est vraiment d'abord une comédienne qui a une palette de jeux incomparable. Elle est vraiment capable de passer de l'aigu du loufoque ou de la drôlerie à l'accent grave de la mélancolie. Et c'est ce qui se passe au fond dans ce spectacle et dans cette pièce, c'est qu'elle nous aspire dans son monde intérieur, enfin dans le monde intérieur du personnage.
De Julie,
dans ce fantastique intérieur, au fond, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. C'est un château hanté, au fond, l'esprit de Julie. Et il apparaît effectivement la mer dans des lieux absolument incongrus. Et on est pris par à la fois la qualité de la névrose du personnage, par la qualité de la mise en scène, qui est une mise en scène extrêmement délicate, intérieur nuit, extérieur doux et velouté, et par effectivement le jeu encore une fois de Christine Bouillot. Moi j'ai une réserve, le soir de la première, je trouve qu'Anne-Marie Yerli n'était pas encore tout à fait peut-être au diapason dans le rôle de la mère. Il y avait des hésitations de texte, et peut-être aussi que le rapport entre les deux comédiennes n'est pas encore tout à fait trouvé. Cela dit, c'est compliqué de trouver un rapport, sachant que François Marin travaille précisément sur
un rapport difficile.
Sur un rapport difficile et sur le côté fantasmatique de la mère, ce côté commandant en chef dont vous parliez.
Mireille Descombes, vous étiez, vous, à la Générale. Donc, voilà. Un soir avant la présence d'Alexandre Demidov au Poulov. Dès lors, effectivement, la pièce était encore, on va dire, en rodage.
Encore plus en rodage, oui.
Je vous prierai dès lors d'avoir de la mansuétude pour le travail des comédiennes.
Je ne fais aucun effort pour avoir de la mansuétude.
Oh,
j'ai bien aimé
genre.
Le spectacle. et déjà, je peux dire qu'effectivement, Christine Bouillot était déjà à la Générale excellente et que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ses multiples facettes. C'est très drôle parce que c'est ce thème des mères-filles. On en a vu un autre exemple avec Lucas Berfus dans Le Voyage d'Alice en Suisse. Oui. Et là, c'est un rapport extrêmement terrible.
Pièce montée par Gian Maria Rau.
Jean Manuel Rau. Tandis que là, l'approche est finalement plus douce. Même si le rapport mère-fille est très difficile, il reste plus ludique et moins tendu que chez Berfus.
Parce que anglo-saxon, peut-être.
Peut-être, et parce que finalement, je trouvais que c'est une pièce qui ressemble un peu à un conte. J'avais envie de dire un peu un conte de Noël, mais c'est un peu tôt. Ou peut-être aussi une jolie fable, un brin sentimental sur l'amour maternel, filial, quoi. Et donc j'étais séduite. J'avais aussi quelques réserves, mais que je ne n'émettrai pas, étant donné que j'ai vu une générale sur le dialogue entre tous ces acteurs, sur l'interaction plutôt des acteurs et sur la justesse de ton de certains. Mais je pense que ça va sans doute se peaufiner, s'affiner. Après, c'est vrai qu'on pourrait peut-être se poser des questions sur le... Oui, mon Dieu, j'ai perdu mon micro.
Votre micro.
J'étais un petit peu à gauche, un peu trop à gauche.
C'est un aveu politique que vous nous faites là.
Tout à fait, je l'assume.
Continuez.
Non, mais sur certaines expressions québécoises, j'imagine, comme certains « yeux », je ne sais pas, que disait justement Anne-Marie Yerli, et qui peut-être l'entravait un tout petit peu dans le naturel.
Alors précisons à nos auditeurs que la pièce est sans accent, mais reprend parfois certaines terminologies,
choses,
peut-être plus québécoises, mais pas tout le vocabulaire, sinon je pense qu'il nous aurait fallu des sous-titres.
Mais j'avoue
que
moi j'ai adoré de voir la mère apparaître dans un frigo.
Ah oui.
Je le dis parce que c'est vraiment elle sonnait dans un frigo. Elle est dans quoi aussi?
Enfin,
dans une cuisinière. Enfin voilà quoi. C'est, je trouve que j'ai beaucoup ri.
Ça nous ramène à Hansel et Gretel presque, pour ainsi dire.
Voilà, c'est un ton de confidence un peu très sympa.
Marie-Pierre Jeunecamp, vous qui étiez à la première ou à la seconde?
J'étais mercredi.
Vous étiez mercredi.
À la seconde.
Et c'était pas une seconde. Parfois, les secondes, elles ont un coup de mou, comme on dit. Mais là, pas du tout. C'est une seconde qui se tenait très bien. Je pense qu'Anne-Marie Yerli, effectivement, entre petit à petit, peut-être dans le personnage. En tout cas, elle était très convaincante. Christine Vouillot, bon, voilà, on a un coup de cœur pour elle depuis des années. Je l'avais découverte dans Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, mise en scène par Joël Jouanneau. Et déjà là, c'est un éblouissement. Elle a une facilité. Et, je dirais verbale, donc textuelle, elle a un rapport au texte magique, on a l'impression qu'il sort d'elle tout à fait naturellement, et effectivement, à l'intériorité du personnage, dont elle donne toutes les couleurs, tout ça est très très fluide, c'est un plaisir, on n'a pas l'impression que c'est un effort, elle ne donne pas l'impression de l'effort, donc c'est formidable pour le spectateur, c'est complètement confort. Ça c'est un côté, on l'a beaucoup dit. Moi ce que j'ai aimé, c'est que ça m'a rappelé aussi Boulette, de Benjamin Knobel,
oui.
Dans ce même lieu, comme vous dites, un peu bas de plafond, un peu étriqué, mais du coup aussi qui fait aussi un peu ventre maternel, hein, ce lieu. On y descend d'ailleurs, donc on descend dans les entrailles.
J'avais jamais pensé au pull-off comme un utérus.
On doit avoir une psychogénéalogie différente, Thierry. Et puis donc, ce côté un peu enfermant dont souffrait à l'époque Benjamin Knobel, qui avait lui-même écrit le texte Boulette, qui était en fait assailli par sa mère à travers des boulettes de viande, qui lui étaient livrées obsessionnellement tous les jours. Et il y avait ce rapport obsédant de la mère aussi, différemment traité, mais aussi avec ce côté surréaliste que moi j'aime beaucoup, parce que finalement c'est ça. Alors là, je trouve Alexandre qui a de la science-fiction. Là, c'est vrai, c'est un fantôme science-fictionnel.
On m'appelle Jacques aussi.
Non,
on
c'est
va
trop...
revenir là-dessus.
Non, mais c'est, voilà, c'est beaucoup plus subtil ici.
Non, parce qu'on ne sait pas vraiment si elle est... On pense
ça.
Qu'elle est vivante.
On ne sait pas. On pense qu'elle est là, qu'elle n'est pas là.
Donc elle fait tout ça.
Elle est vivante.
Assez vite, on sait qu'elle n'est pas là, parce qu'elle disparaît mystérieusement. Donc on pense bien que c'est dans la tête
du personnage. Elle est vivante dans l'esprit de Julie.
Mais elle est très vivante. Et moi, j'aime effectivement ses apparitions dans le frigo, dans le four. Elle est coincée et elle se bat avec ce four. Il y a un côté effectivement comique, en fait tragicomique, et c'est vraiment très réussi. Moi, je découvre cette Lise Vaillancourt et je vais essayer de lire du Lise Vaillancourt.
Eh bien, c'est très très bien. Donc Christine Vouillot, Anne-Marie Yerli et encore Colline Ladetto dans La Corneille au Pull-Off de Lausanne jusqu'au 15 novembre. Cette Corneille sera à Villars-sur-Glâne, Huitony, du 18 au 20 novembre. Puis le 24 novembre à Sion au Théâtre de Valère. Le 26, c'est à Vevey au Théâtre Le Reflet. Et l'an prochain, elle croise au Crochetant, hein, croise au Crochetant, de Montaigne du 15 au 17 avril. Et enfin le 21 avril, fin de cette belle tournée à Yverdon au Théâtre Bénobesson. Le Méridien parle de poésie, mais pas que de poésie. Il y a aussi question dans ce spectacle de Révolution française, de la figure de Danton, de théâtre, de Büchner et de bien d'autres choses encore, toutes abordées, au sens peut-être corsaire du mot abordage, par le comédien Nicolas Bouchaud, seul sur le plateau de Vidy-Lausanne jusqu'au 7 novembre. Ce spectacle en solo, donc, débute par une anecdote, une confession, Nicolas Bouchaud.
Un dimanche après-midi, j'étais assis dans le salon, quand tout d'un coup, une jeune fille rentre dans la pièce. C'était la fille de ma compagne. À l'époque, elle avait 12 ans. Et elle arrive devant moi avec un livre à la main, l'air renfrogné, en me disant « Écoute, je comprends rien. Je comprends pas ce que je lis, je comprends pas ce texte. » Et elle me tend le livre, je le prends. Et c'était un recueil de poèmes d'Arthur Rimbaud. Et elle continue en me disant « Je comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire morve d'azur? Qu'est-ce que ça veut dire lichen de soleil? Je comprends rien. » Et moi, je lui dis « Bah, si, regarde, quand même, c'est beau. Arthur Rimbaud, c'est beau. » Et là, je suis tombé dans un trou noir. J'arrêtais pas de répéter cette phrase en boucle, mais « Si, quand même, regarde, c'est beau. » Comme si je lui disais « L'art, c'est beau. L'art. »
Voilà, pour ma part, j'avoue que je préfère lichen de soleil plutôt que morve d'azur. Mais c'était un extrait donc du tout début du spectacle « Le Méridien » de Nicolas Bouchaud, mise en scène d'Éric Didry. C'est un accueil français au Théâtre de Vidy jusqu'au 7 novembre. Je vous disais à l'instant que Le Méridien parle de poésie. Il ne trouve pas sa prose en l'occurrence et ses répliques dans un texte de théâtre, mais dans un discours. Un discours daté du 22 octobre 1960. Un discours tenu à Darmstadt, petite ville allemande où se décerne chaque année le prix Georg Büchner. L'un des prix littéraires les plus prestigieux du monde germanophone.
Qui ne s'est pas décerné entre 1933 et 1944 pour les raisons qu'on peut imaginer.
Mais bien sûr, et justement, cette année-là, 15 ans à peine après la chute d'Adolf Hitler, c'est un poète juif, roumain et germanophone, Paul Celan, qui reçoit la récompense. Un homme qui a connu les camps et dont toute la famille fut décimée dans les chambres à gaz. Cet homme a changé de nom, il s'appelait autrefois Paul Pessar Hanschel, désormais Paul Celan. Il s'est même établi en France, mais il n'a pas changé de langue, ni même cessé d'écrire de la poésie. Son discours débute comme une allocution officielle, érudite, pour se transformer en une sorte de manifeste poétique. Le texte est empli de références, notamment à Büchner, évidemment, cet homme de lettres et de théâtre allemand du XIXe siècle. Il est parfois ardu, certes, mais Nicolas Bouchaud ne ménage ni sa verve, ni sa science de comédien, ni son corps même pour nous le transmettre. La scène, par exemple, devient un tableau noir horizontal sur lequel Bouchaud écrit, décrit à la craie, quasiment des cartes géographiques. Nicolas Bouchaud arpente aussi le plateau comme un tigre en cage. Il danse du klezmer comme un jeune marié acidique. Il s'adresse directement au public, sort du texte, y revient parfois et finalement se couvre de farine. Le tableau noir devient alors complètement blanc. Et on comprend que Nicolas Paul Bouchaud Celan écrit sur des cendres. Mireille Descombes, je reprends votre chronique que j'essaie d'attraper quelque part et que j'ai... Voilà, c'est un spectacle qui ne se raconte pas. Il se vit, s'éprouve et se partage. Alors ne nous racontez pas, mais partagez-le au moins, car vous parlez là d'une fulgurante évidence.
Oui, ben, vous parliez de cette danse hein, qu'il fait.
Cette danse klezmer.
Voilà,
oui.
Qui n'a rien de folklorique, justement, qui est pour moi une danse qui a toutes les racines de toutes les danses de presque Nietzsche, j'allais dire, et il la danse au-delà de toute signification. Et pour moi, cette danse, elle résume bien tout ce texte qui en fait est un texte d'hommage à l'art et à la poésie, mais qui est un texte qui est poésie et qui dit le fait de faire de la poésie. Et je trouve que c'est extraordinaire parce qu'on est vraiment aux antipodes de tout ce bavardage narcissique qu'on trouve un peu partout aujourd'hui, notamment au théâtre, nous en avons un peu parlé.
Je ne dirais rien. Non.
Voilà. Il nous dit que voilà, il dit la poésie, ça peut signifier un tournant du souffle. Je trouve ça très très beau.
Un renversement. Oui, un souffle inversé.
Oui, moi j'ai une autre. J'ai peut-être une autre traduction. J'ai pas eu son texte. J'ai une traduction que j'ai. Voilà. Et donc, est-ce qu'il y a bon, il y a le texte, mais il y a aussi justement, comme vous l'avez dit, toute cette utilisation de l'espace qui est extraordinaire avec ce paysage réduit à l'essentiel. C'est un paysage qui, on peut le dire quand même, d'une fois, il y a les paysages des mots à plat, qui est le paysage des signes, des dates, des références, et tout d'un coup, le tableau, le paysage s'effondre, et on arrive on tombe sur une carte, et c'est la carte des frontières de l'histoire, et ça, j'ai trouvé extrêmement fort, donc moi aussi, je vais, comme vous, vous allez vous plonger dans mon Dieu, j'oublie,
Lise Vaillancourt,
et ben moi, je vais lire cette.
Alors, du théâtre qui donne à lire. Je me tourne vers vous, Marie-Pierre Jeunecamp. De votre côté, je vois Nicolas Bouchaud, l'art de la déroute, c'est le titre du temps de hier, de jeudi. Un acteur en route, mais qui cette fois met le public en déroute. Mais il faut comprendre ça de manière positive, je crois.
Bah, lisez la phrase qui suit, parce qu'elle est
complémentaire. Je lis la phrase qui suit. Invite le spectateur à se perdre dans la pensée complexe d'un poète brisé pour mieux défier notre part d'humanité.
C'est ça. C'est vraiment. Enfin, moi, j'ai vraiment. Effectivement, on traverse le miroir. Hein. Là, c'est pas le grand miroir de la vérité, décidément, la pauvre Sandra Corolle. Mais c'est un miroir autrement plus poignant. C'est bouleversant, quand même, ce qu'il raconte. En fait, il raconte que la poésie, c'est mieux que l'art parce que elle échappe à tout code esthétique et elle est complètement au cœur du drame, au cœur de la tragédie humaine.
Elle peut être libre et absurde dans l'adversité.
Elle peut être vilaine. Elle peut être elle est juste au centre de l'histoire de l'homme, quoi, au centre de l'histoire de la tragédie, je sais pas comment le nommer mieux que ça, c'est-à-dire naître et mourir, si possible dans de bonnes circonstances, mais en l'occurrence, il fait naturellement allusion aux très, très tragiques circonstances de la Shoah. Alors, ce qu'on sait, vous l'avez bien souligné, c'est que Paul Celan a continué à écrire alors qu'il y avait une sorte d'interdit moral et philosophique posé par Adorno suite à l'Holocauste. Quoi. Il n'y a aucun mot pour traduire l'horreur de la solution finale. Il a fait ce défi d'écrire, et non seulement d'écrire, mais comme vous l'avez dit, d'écrire en langue allemande, la langue des bourreaux.
Et d'écrire avec douleur, faut-il le préciser, Paul Celan, s'il est mort dans un lit, il est mort dans le lit de la Seine, en l'occurrence, car il s'est
jeté du pont Mirabeau, paraît-il. C'est même d'où il s'est jeté.
Voilà, donc il écrit on peut le dire avec le sang, avec les cendres, avec la part maudite de sa grande famille, hein, la famille hébraïque. Il écrit surtout, alors moi j'avais jamais réalisé ça, justement avec autant, parce que on m'avait dit, oh mais Paul Celan c'est déprimant, Paul Celan c'est cynique, c'est horriblement triste et horriblement, c'est sans espoir,
cynique,
c'est sombre.
Ou sinistre plutôt.
Oui, mais on m'avait dit cynique et je comprends pas, on m'avait parlé du cynisme de Paul Celan beaucoup, et c'est vrai que c'est, et donc j'étais restée un petit peu en marge, j'ai jamais lu Paul Celan, en plus c'est une traduction, donc je me dis, voilà, il faudrait pouvoir lire en langue allemande pour vraiment bien faire les choses. Et là, c'est vrai que ça me donne aussi envie de lire, parce que je trouve que le poème de Todesfuge, que je découvrais très honnêtement, donc je ne suis pas une aficionada de Paul Celan, ce poème Todesfuge, il est comme une comptine, comme une ritournelle. Donc c'est un poème qui évoque la solution au final, puisque c'est, enfin, oui, le fait que les Allemands tuent très froidement les Juifs, notamment dans coup de fusil, mais il l'évoque justement sur le mode de la répétition de ce lait, qui pourrait être un lait maternel, mais là qui est un lait mortel, et c'est très glaçant ce moment. Et c'est un moment qui est très bien amené, parce qu'en fait, ce que fait Nicolas Pouchot, c'est qu'en effet, il fait une conférence, vous l'avez très bien dit, avec signes et dessins et mouvements, mais surtout, il établit un rapport au public qui est tellement intime, il prend à témoin des gens du premier rang, et puis il se met tout prêt pour dire cette Todesfuge qui est quand même très lourd. Donc, et moi, j'étais au deuxième rang, juste devant lui. Mais tout à coup, on a le poids. On a le poids de cet accablement, mais grinçant en plus, parce que c'est cette ritournelle d'enfant. Donc, on est dans une espèce d'entonnoir et on ne peut pas échapper. On a des images vraiment magnifiques qui arrivent. Enfin, bref, c'est vrai que c'est difficile de parler, je fais un peu des bouts de phrases, mais je crois que c'est aussi la charge de ce spectacle qui empêche des paroles définitives.
Alexandre Demidov, quelles furent vos propres images? Et comment êtes-vous ressorti de ce méridien?
Ouais, j'en suis ressorti ému, perturbé, frappé par la force de cet acteur. On l'avait quitté il y a de cela quelques mois. Vous vous rappelez, il était sur les traces de John Berger et de Jean Maure en Angleterre dans les années 60.
Avec un médecin de campagne.
Avec un médecin de campagne, ça s'appelait Un métier idéal. Il était déjà très très impressionnant. Il y a de cela quelques années, il jouait des textes de Serge Danet, hein, le critique de cinéma du journal Libération. Texte qui venait d'un échange avec Régis Debray.
La
loi du marcheur. Et voilà, c'est un homme qui marche, Serge Danet bien sûr, Nicolas Bouchot aussi, c'est un homme qui marche et qui nous fait marcher avec lui et qui nous fait marcher vers des objets qui sont des objets a priori peu théâtraux. C'est vrai que les textes de Danet n'étaient pas forcément faits pour être dits. Le texte de Paul Celan est fait pour être dit, certes, mais dans un cadre que vous avez rappelé qui est celui d'une allocution. Et il rend sensible, au fond, ces grandes questions qui sont celles de la poésie, qui sont celles de l'art, qui sont celles, effectivement, du rapport d'un poète à l'histoire. Il n'éclaire pas. Ce qui est très beau aussi avec Nicolas Bouchot, c'est qu'il ne prétend pas éclairer, parce qu'il y a des parts d'opacité, il y a des parts hermétiques encore dans ce texte, mais il rend désirable cette opacité et cet hermétisme. Et il nous fait entrer, au fond, dans une autre sphère, qui est la sphère poétique. Et il le fait avec les moyens qui sont les siens, c'est-à-dire ceux d'un très grand comédien qui a un sens aigu de ce que Paul Celan définit peut-être comme un rapport au tressaillement de la vie, hein, puisqu'il est question de la poésie comme la saisie de ces tressaillements de la vie. Il y a quelque chose dans le jeu de Nicolas Bouchot qui relève précisément de ce rapport presque naturel à la scène, au spectateur, au spectateur reconnu dans son identité et distingué. Ce qui est très beau à la chaîne Nicolas Bouchot, c'est qu'il distingue le spectateur. Il fait de vous un homme distingué.
D'ailleurs, la salle est souvent éclairée et il nous regarde vraiment. Donc c'est vrai qu'on échappe à sa présence, elle est très... Mais je dirais qu'elle est quand même moins fluide que Christine Bouillot pour replacer dans les qualités de jeu.
C'est très différent.
Ouais, ouais. Mais c'est intéressant parce qu'on a eu deux très grands acteurs, mais des acteurs dans des registres très, très nuancés. C'est-à-dire que Christine Bouillot, c'est tout en fluidité. Lui, c'est tout en saisissement. Et il nous empoigne.
Mais parce que le texte, voilà, ouais. C'est le texte de Paul Celan aussi.
Oui, mais il est comme ça.
Je suis ravi de vous voir unanime sur un spectacle que nous recommandons donc tous les quatre, du coup, Le Méridien de Nicolas Bouchot, une mise en scène d'Éric Didry.
On finit mieux qu'on a commencé.
Mais oui, voilà.
Non, très
émotif. Je vous rappelle, voilà. Donc c'est un discours du poète roumain germanophone Paul Celan ou Celan. C'est à Vidi-Lozane jusqu'au 7 novembre. Vous retrouverez toutes ces dates et adresses sur notre site internet www.rts.ch/zonecritique. Il nous reste quelques minutes dans Zone Critique pour des coups de cœur, recommandations de spectacles que nous n'aurions pas traités durant cette heure de débat. Je crois, Mireille Descombes, que vous souhaitez nous emmener, en l'occurrence, pour un voyage, le voyage d'Alice en Suisse.
Voilà, de Lucas Berfus, qui est mis en scène donc par Gian Manuel Rao, et qui est encore à la Grange de Dorigny les 30, et les, donc ce soir, et le 31 octobre. Et il faut aussi relever que le 30 octobre, donc ce soir, après la représentation, il y aura une rencontre avec Peter Utz, professeur à la section d'allemand de l'UNIL, les traducteurs du texte Ellen Moller, et René Zand et la troupe du spectacle. Je ne donnerai pas le sous-titre de la pièce qui parle d'euthanasie parce que apparemment, et je pense qu'on en parlera peut-être ce soir, c'est un terme qui fait problème. Nous avons même une lettre de lecteur à ce propos.
Eh bien, et de votre côté, Marie-Pierre Jeunecamp, je me tourne, vous nous emmenez plutôt à Genève, vous, pour la fête du théâtre,
oui,
qui va battre son plein dès vendredi.
Elle a commencé hier
soir. Elle a déjà commencé.
Donc elle court jusqu'à dimanche. C'est une fête qui permet de visiter les coulisses du théâtre, qui permet de voir des spectacles gratuits, d'assister à des répétitions, des débats, des rencontres, etc. Et dans ce riche programme, ce dimanche à 16h30 à l'Abri, qui est cette nouvelle salle
dans
la Madeleine, à Genève,
voilà,
se déroulera donc Ambition, qui est une série théâtrale qui court depuis 3 ans. Et donc il y a vraiment le même principe qu'une série TV, c'est avec des épisodes et des rebondissements.
25 épisodes.
Voilà, 25 épisodes, mais là c'est un hors-série, c'est un épisode un peu particulier que vont nous servir donc les trois... Les trois protagonistes d'Ambition.
Qui sait, ou un pilote, on dit pour une série télévisée. Exactement. En l'occurrence. Je me tourne vers vous, Alexandre Demidoff, où souhaiteriez-vous nous emmener?
Aller au théâtre de Carouge, voir Shake. Shake comme Shakespeare, Shake comme Shaker, c'est Shakespeare à la plage, Shakespeare en enfance, c'est un spectacle signé Dan Gemmett, qui est un metteur en scène britannique.
Donc au théâtre de Carouge à Genève. Merci beaucoup. On tire doucement le rideau. Zone Critique Théâtre se termine. Vous aurez peut-être noté aussi, chers auditeurs, les titres de ces spectacles. Donc Je m'appelle Jack, Créature, Motif, Le Méridien et enfin La Corneille. J'aurais souhaité aussi vous recommander Conférences de choses qui passent bientôt à Lausanne. Pierre Mif Sud pour 8 heures de spectacle. Ça, c'est du marathon. Merci de votre écoute. Merci à Marie-Pierre Jeunecamp, Mireille Descombes, Alexandre Demidoff, Monique Cortési et Fatmir Black Eye, sans qui cette émission ne serait tout simplement point. Tout de suite, ça sera Magma, votre magazine musical, votre repas et les infos de la RTS. Il est midi sur